Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. En fin de semaine dernière, après plusieurs jours d'attente, l'homme politique malien Soumaïla Cissé, la Française Sophie Petronin et deux otages italiens étaient relâchés. Si l'attente a été longue et anxieuse, c'est que les mouvements djihadistes du Nord Mali qui les détenaient se sont assurés de la mise à l'abri de quelques 200 personnes libérées en échange. Échange et donc évidemment discussion avec l'État malien qui détenait ces individus proches des djihadistes dans ses geôles. La pratique des échanges de prisonniers est classique, mais elle souligne l'existence de négociations entre les rebelles djihadistes et la junte au pouvoir à Bamako. Faut-il négocier avec les djihadistes? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous dans ce studio aujourd'hui. Nicolas Normand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre plénipotentiaire honoraire, ancien ambassadeur adjoint en Afrique du Sud et ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo-Brazzaville et au Sénégal, auteur du grand livre de l'Afrique aux éditions Erol. Mais également Wassim Nasr, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France 24, c'est la chaîne de télévision de France Média Monde, auquel appartient également RFI, et spécialiste des mouvements djihadistes. Et enfin, Lemine Ould Salem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur entre autres des livres Le Ben Laden du Sahara sur les traces du djihadiste Mokhtar Belmokhtar chez La Martinière et de L'histoire secrète du djihad d'Al-Qaïda à l'État islamique chez Flammarion, réalisateur également du documentaire Salafiste.
Ah,
les choses se sont donc bien terminées. Soumaïla Cissé, Sophie Petronin, elle est désormais ex-otage italien. Tout s'est bien terminé pour eux. Et tout le monde s'en félicite. Pour cela, il a fallu des jours et des jours de négociations et d'attentes. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Pour négocier, il faut être au moins deux et parfois plus avec les intermédiaires. C'était une négociation entre qui et qui, Wassim Nasr?
Alors, il y a une myriade de médiateurs, mais peut-être que Lemine pourra entrer dans les détails plus que moi, mais en tout cas, ça s'est fini avec une équipe de négociateurs chapeautée par Hag Bibi, qui est une figure touareg, qui a pris les rênes de ces négociations juste avant le coup d'État. À Bamako.
Il est élu malien.
Il est élu malien.
Et ancien
il faisait
proche
partie
de
proche d'Ibeka et proche d'Ibeka. Il faisait partie de la majorité d'Ibeka. Et donc la junte a eu l'intelligence de le garder pour qu'il continue ses négociations, donc directement avec Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin, qui appartient au Al-Qaïda au Maghreb islamique, et donc directement avec Iyad Ghali, qu'il connaît personnellement.
Le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, pour l'acronyme français. Lemine Ould Salem, ce dialogue, il dure depuis quand? Et en fait, ma question, elle est très claire, est-ce que le fil a jamais été rompu depuis l'offensive djihadiste?
S'agissant du cas précis de Soumaïla Cissé, Sophie Petronin et des Italiens libérés avec eux, on ne peut pas dater. Ça dépend des situations et des cas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'au lendemain de l'enlèvement de Soumaïla Cissé, l'État malien a mis en œuvre immédiatement une tentative de libération. Il a mobilisé un certain nombre d'individus. Il a d'abord sollicité un certain nombre de figures locales, c'est-à-dire de la région dans laquelle Soumaïla a été enlevé. Puis après, d'autres personnes dans l'entourage de Soumaïla ont pris l'initiative d'appeler certaines personnes qui pourraient aider l'État malien. Puis après, à la fin, l'État malien a fini par choisir lui-même, notamment. Il y a eu deux équipes. Une première équipe, officiellement deux équipes. Une première équipe menée par Cherif Ultahar, qui est un arabe malien de la région de Tilemsi, qui est déjà à l'origine de la libération de plusieurs otages auparavant. Puis après, plus tard, il y a Ahmed Hag Bibi, qui est très connu, qui était député de la majorité présidentielle du Brahim Boubacar Keïta, le président de CHU en août 2018, qui est un ancien rebelle lors de la rébellion des années 90, et qui est surtout membre de la même tribu que Iyad Agarali, qui est le chef général du JNIM, c'est-à-dire et ce lien est très ancien.
C'est ce que je veux dire, ils se sont toujours parlé.
Je ne suis pas le témoin. Je n'ai jamais été témoin d'une scène pareille, mais oui, selon les témoignages de beaucoup de gens, il n'y a jamais eu de rupture réelle, même s'il y a peut-être probablement une rupture politique. Les choix n'ont pas été les mêmes à un moment donné, parce qu'il y a de rester un insurgé les armes à la main, alors que Agbibi a choisi plutôt d'entrer dans le jeu, dans le processus des accords d'Alger, en se faisant même élire députés sous la bannière du parti, la majorité présidentielle sortante. Mais selon beaucoup de témoignages, les liens de parenté, les liens historiques entre eux, ils ont fait le Liban ensemble, ils ont fait la Légion de Kadhafi, ils ont fait la guerre du Tchad ensemble. Agbibi a toujours été une sorte de petit frère et de bras droit de Iyad Agrali. Et il semblerait qu'il est, pour beaucoup de gens, le lien existe toujours.
Alors, Nicolas Normand, on comprend bien ce qui vient d'être dit par Wassim Nasr et Lemine Ould Salem, que c'est une négociation qui est principalement intramalienne. Est-ce que la France a joué un rôle là-dedans ou est-ce qu'elle a laissé faire l'État malien ?
Alors, personne ne sait exactement comment les choses se sont partagées entre la France et le Mali. Forcément, la France a joué un certain rôle puisque une otage française a été libérée, ce qui était, c'est normal, pas la priorité des autorités maliennes qui voulait surtout faire libérer Soumaïla Cissé. Mais on est dans un processus traditionnel, puisque malheureusement, depuis 2000 environ, c'est-à-dire depuis 20 ans, il y a eu de très nombreuses prises d'otages par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda, et à chaque fois, il y a eu une négociation ponctuelle pour les faire libérer. La particularité de cette dernière négociation, c'est qu'elle est particulièrement déséquilibrée, puisque c'est 4 otages contre plus de 204 djihadistes, parmi lesquels il y a une vingtaine de djihadistes avérés, criminels, organisateurs d'attentats qui ont tué de nombreuses personnes. Et en plus, il y a une rançon dont le chiffre fluctue selon les informations de presse entre 10 et 20 et 30 millions d'euros. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'autres otages vont être pris, ceux dont les pays ont payé, ou ceux dont ceux dont les pays ont payé, puisqu'il y a une Suisse, n'est-ce pas, qui a été assassinée, parce que la Suisse n'a pas payé. Et donc, donc il y aura d'autres otages français, malheureusement, qui vont être visés, parce qu'il y a une valeur marchande de l'otage qui s'établit dans ces circonstances. Et en plus, il y a des armes qui vont être achetées, il y a des recrues qui vont être faites par ces rançons. Donc, ça stimule, ça développe le djihadisme, qui est né de cette façon-là, n'est-ce pas? Parce que de 2000 à 2012, ce n'était que des prises d'otages et des rançons, et ensuite, les choses ont explosé à partir de 2012. Donc, on voit bien la logique dans laquelle on entre de nouveau.
Alors, Wassim Nasr, je ne sais pas si vous allez rebondir sur ce qui a été dit, notamment sur le profil des quelques 200, 204, 206, un peu moins de 200, les chiffres sont très variables, personnes qui ont été libérées par la junte. Mais est-ce que tout cela ne montre pas que les djihadistes du Nord Mali sont devenus incontournables ? Est-ce qu'au-delà des opérations armées qu'ils effectuent, est-ce qu'ils contrôlent, voire est-ce qu'ils administrent une partie du territoire comme le ferait un État ?
Déjà, il faut voir de quoi on parle. Hein. Aujourd'hui, la configuration est totalement changée par rapport au début des années 2000, c'est très bien dit, mais il y a aussi un facteur nouveau qui est l'État islamique. D'accord.
Oui.
Donc ça à prendre en considération aussi.
Oui, donc là, on parle des djihadistes du Nord Mali pour l'instant.
Voilà, et donc, aujourd'hui, on a Al-Qaïda et l'État islamique. Mmh. On a Al-Qaïda qui est un acteur qui est ancré localement, qui a pris le dessus sur l'État islamique dans les derniers combats dans le centre du Mali, si vous voulez, on peut développer, la zone des trois frontières, et qui a à sa tête, donc, cette filiale d'ACMI, à sa tête Iyad Gali. Iyad Gali, qui est un homme politique, comme Lamine l'a dit, qui a un historique et qui fait partie de la noblesse Touareg, c'est pas n'importe qui quand même. Donc il est flanqué d'un prédicateur, Mohamed Koufa, qui n'est pas une personnalité, qui n'est pas un notable Fulani, mais qui a son poids et qui a réussi à recruter pour les rangs, dans les rangs d'Al-Qaïda, beaucoup de peuls. Mmh. On a commencé à voir des peuls qui n'étaient pas du tout concernés par cette dynamique djihadiste, s'impliquer de plus en plus dans le djihad. À titre d'exemple, les attentats de Ouaga, du Grand Bassam aussi, on a vu une implication qui était nouvelle pour la région. Donc quand on dit pourquoi on libère, pourquoi on négocie? Parce que d'un autre côté, Al-Qaïda en face veut négocier. Et donc là, on a un acteur qui veut négocier. Ibeka lui-même, avant qu'il ne soit déchu, il a dit « je parle avec Iyad Gali, je parle avec Mohamed Koufa ». Donc il y a un jeu d'équilibriste aujourd'hui avec un acteur qui ne veut pas négocier, qui est l'État islamique, et qui fait fi des frontières, et fi des notables, et qui ne respecte pas le tissu, on va dire, local, et un autre qui est ancré dans ce tissu local, qui donne du fil à retordre aux forces locales et à Barkhane, avec cette union qu'a manipulé Droukdel en 2017 en créant le Jnim, c'est peut-être sa plus grande œuvre, entre guillemets, de son
Droukdel,
de son
le chef d'ACMI, qui a été abattu par la France.
Donc on parle de négociation, mais aussi c'est une guerre. Donc on négocie avec l'acteur qui veut négocier, mais la guerre continue. Drugdel, qu'on vient de citer, a été tué par la France il y a quelques mois. Ça n'a pas empêché que les négociations continuent. Et en ce qui concerne les otages, et j'ai terminé là-dessus, chaque cas est particulier. Le cas de Stockley ne ressemble en rien au cas de Sophie Petronin, qui ne ressemble en rien à d'autres cas. Donc chaque cas est particulier et chaque cas a sa, on va dire, sa spécificité et sa propre dynamique. Même pour la libération des Italiens, c'était un processus parallèle à celui qui était entamé pour Cissé. Et l'histoire de Sophie Petronin s'est greffée au bon moment, hein, au poids politique de Cissé qui a permis que les choses aient finalement aboutissent à moindre coût, on va dire, pour la France, qui a quand même empêché un paiement de rançon en décembre 2018. Al-Qaïda, en décembre 2018, a dit on ne veut plus parler avec la France, ni en ce qui concerne les otages français, ni en ce qui concerne les otages occidentaux.
L'Emine Salem, ACMI, auquel le JNIM Diag Ali a fait allégeance, et les armées du G5 Sahel, ainsi que l'opération Barkhane, est-ce qu'ils ont un ennemi commun avec l'État islamique au Grand Sahara?
Effectivement, oui, tout à fait, tout à fait. Mais sauf que... je pense qu'il y a beaucoup plus de proximité quand même idéologique. Et s'il y a possibilité d'affection, de proximité affective, elle sera beaucoup plus entre ACMI et l'État islamique qu'entre un de ces deux acteurs et les armées du G5 Sahel ou de Barkhane. Ce que je veux dire, bon, je voudrais bien revenir sur un point soulevé par M. l'ambassadeur tout à l'heure, c'est que il a souligné le fait que probablement il y aura probablement d'autres enlèvements de Français. Moi, alors de ces événements, j'ai tiré quand même quelques leçons. La première est que de toute façon, je crains beaucoup plus le début d'un nouveau mode opératoire découvert par ACMI et donc le JNIM à travers l'enlèvement de Somel Assissé. C'est l'enlèvement de personnalités locales très influentes, des chefs religieux, des chefs traditionnels, des hommes politiques, des artistes, des footballeurs très célèbres, etc. Et je pense que je le crains beaucoup plus que c'est-à-dire de nouveaux enlèvements d'occidentaux. D'autres, pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y en a plus aujourd'hui. Aucun Français ne peut aujourd'hui se promener ni à Tombouctou ni à Gao. C'est à peine qu'ils sont à Bamako. Ils n'arrivent même pas à Ségou aujourd'hui. Donc, ça c'est d'une part. Deuxièmement,
ce que vous voulez dire, c'est que le JNIM pourrait aller chercher des personnes. Est-ce que j'imagine ça
un chef tribal, par
même
exemple.
Dans le centre, vous parliez de footballeurs connus, dans le centre de Bamako.
Il aurait déjà arrivé d'enlever un franco-portugais en 2012, en pleine occupation du Nord, à Djema. Et Djema se trouve entre Kaï et Bamako, c'est-à-dire que ce n'est même pas pas loin de Nioro. Donc, ils ont été signalés, il y a même pas une quinzaine de jours, des prédicateurs proches de Koufa étaient présents dans les villages à côté de la ville de Nioro, à la frontière mauritanienne. Évidemment, bien sûr, ce que l'on craint aujourd'hui, ça peut ne pas se faire au Mali, ça peut se faire au Niger, ça peut se faire en Mauritanie, ça peut se faire au Burkina Faso.
Il y a eu des enlèvements en Niamey d'ailleurs.
Et ce qu'il faut se dire maintenant, ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que 7 ans après l'intervention française au Mali, les djihadistes aujourd'hui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus violents et beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient en 2012. En 2012, ils ne dépassaient pas quelques centaines. Aujourd'hui, on a bien vu déjà avec 200 avec une capacité à libérer 200 prisonniers, c'est quand même énorme.
Alors, Nicolas Morand, pour la France, le Nord-Mali reste-t-il la priorité absolue sur le plan militaire? On regarde d'autres régions comme celle des trois frontières. Ce que je veux dire, c'est est-ce que la France laisse un petit peu le champ libre à l'État malien pour ce qui se passe dans le nord de du pays?
En partie, vous avez raison, parce que il y a 5100 soldats de Barkhane sur trois pays, en fait, sur le Mali, le Niger et le Burkina. Ils ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire qui est beaucoup plus vaste que la France. Et donc, ils se sont concentrés davantage sur la région des trois frontières et donc aussi davantage sur l'organisation État islamique. Ça ne veut pas dire qu'ils délaissent le nord. Il est évident que le GNIM reste un acteur important avec Yadak Gali. Le fait qu'il ait encaissé des des dizaines de millions d'euros. Le fait qu'il ait libéré ses compatriotes du Nord, ses amis, ses combattants, le rend également très populaire dans le Nord. Ça rehausse son prestige.
Justement,
donc moi, je pense que ça va rééquilibrer un peu les forces en faveur de son organisation qui dépend d'Al-Qaïda.
Je repose la question, est-ce qu'il administre le Nord comme le ferait un État? Est-ce qu'il apporte des services essentiels, la paix?
Enfin, voilà. Oui, cette question, c'est pas le stade atteint par les Chebabs en Somalie qui administrent véritablement une partie du territoire, mais c'est vrai que dans certaines zones du Mali, ce sont les djihadistes qui administrent le territoire dans une certaine mesure, puisqu'ils touchent de l'argent, il y a des sortes de taxes, il y a aussi des services qui sont rendus sous forme d'une justice expéditive, mais quand même une justice, et il y a aussi, par exemple, des arbitrages entre les agriculteurs et les pasteurs,
dans les conflits pastoraux,
sous forme de corridors de passage du bétail, des choses de ce genre. Et comme l'État est complètement absent et que la nature a horreur du vide et que les populations ont besoin quand même d'un certain arbitrage et d'une certaine administration, les djihadistes tentent de s'implanter comme ça, mais c'est pas une véritable territorialisation. C'est-à-dire que nous n'avons pas atteint le stade de Daesh qui administrait 10 millions de personnes sur un territoire grand comme la Grande-Bretagne, sur l'Irak débordant sur la Syrie, ou même en Somalie, il y a aussi une certaine territorialisation où il y en avait une au Mali pendant 7 mois en 2012, n'est-ce pas, avant qu'ils essayent de descendre vers le sud.
Wassim Nasr, je reviens à l'éventuelle négociation, parce que c'est le sujet de l'émission. Sur quoi des négociations, ce qui pourrait s'apparenter à un processus politique, en fait, hein, de discussion, de règlement du conflit, pourrait porter? De quoi est-ce que les différentes parties sont capables de parler?
Il faut voir, déjà, qu'est-ce qui est négocié? Qu'est-ce qui est sur la table? D'accord? Là, par exemple, on dit, OK, il y a eu 200 détenus libérés pour le compte d'Al-Qaïda. Mais qui sont les 200 détenus? Évidemment, il y a des têtes d'affiche, mais aussi, il y a des gens qui pivotaient autour de cette rébellion du Nord ou de cette mouvance djihadiste, des gens qui étaient raflés sans aucune raison et qui ont été libérés. Si on dit pourquoi Iyad Ghali demande la libération de ces gens-là? Parce que Iyad Ghali fait de la politique. Parce que les festivités ont commencé dans le Nord, parce que les gens retrouvaient leur famille, etc., etc., bien avant que les otages n'arrivent à Bamako. Et ça, c'est des informations qui me sont remontées du terrain. Et là où je vais peut-être un tout petit peu contredire mon confrère Lemine,
on est là pour ça,
c'est par rapport au kidnapping des personnalités. Je pense que c'est un coup qui peut se faire de temps en temps, mais pas d'une manière récurrente, parce que exactement ce que veut faire Al-Qaïda, c'est gagner les cœurs et les esprits. Et ce que ne fait pas l'État islamique en comparaison. L'État islamique élimine les notables, élimine les religieux pour les remplacer. Parce que c'est eux, les notables, les religieux qui sont sur zone, les figures locales, qui sont le relais avec l'État central. Ils les éliminent et ils les remplacent. Donc la jeunesse qui émerge n'a que l'État islamique comme choix. Alors qu'Al-Qaïda essaye de ménager, essaye de s'implanter. D'ailleurs, ce qu'on a reproché à Drugdel, à Al-Qaïda central, et ça c'est des documents qui étaient retrouvés à Abbottabad, c'est qu'il faisait trop de concessions. Ce que l'État islamique reproche à Acme, c'est les concessions. C'est la protection des frontières, telles qu'ils disent, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Donc c'est pour ça aujourd'hui que ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, c'est qu'il y a un acteur qui veut négocier, on est dans une insurrection. Barkhane n'est pas une opération policière. Quand il y a insurrection, il y a négociation. Ça ne veut pas dire que la guerre s'arrête. Donc les djihadistes d'Acme, de Jenim, continuent d'attaquer l'armée malienne. L'armée malienne les attaque, ils attaquent Barkhane, Barkhane les attaque, Barkhane a tué Drugdel, encore une fois et encore quelques mois. Mais en même temps, quand c'est une insurrection, il y a obligation de négociation. Alors que de l'autre côté, du côté de l'État islamique, il y a zéro négociation. Et donc c'est ça aussi qui s'articule aujourd'hui. Si on est face à une prise d'otage au cœur de Bamako avec trois djihadistes retranchés dans un hôtel, évidemment il n'y a pas de négociation, parce qu'eux-mêmes ils sont venus mourir. Mais si on est face à une insurrection comme c'est le cas dans le Nord Mali, évidemment qu'il faut négocier.
Lemine Oussalem, l'une des conditions...
J'aimerais répondre à Wassim. Il est vrai que ce procédé que j'ai décrit tout à l'heure est beaucoup plus accentué chez les partisans d'État islamique que chez Al-Qaïda. Absolument, Al-Qaïda est beaucoup plus politique et beaucoup plus méthodique. Absolument, ils ont l'expérience, ils ont aussi la méthode. Et surtout, ils sont beaucoup plus...
politique.
Plus rationnel dans ce qu'ils font par rapport à l'État islamique. Plus pragmatique, si tu veux. Mais cela n'exclut pas que certaines personnalités, j'en vois, je vois certaines figures aujourd'hui au Mali, au Niger, à Mauritanie, au Burkina Faso, qui répondraient parfaitement aux critères qui pourraient justifier un enlèvement par Al-Qaïda. Ça peut être un homme politique dont les positions par rapport à eux sont notoirement connues comme étant très, très radicales. Ça peut être un chef religieux ou un prédicateur religieux très populaire, mais qui est publiquement hostiles à leur discours et à leur méthode, absolument. Et c'est ce que je crains. Ça peut être aussi une personnalité artistique, sociale, culturelle, etc. etc. Je voulais juste souligner cela, même si je le reconnais avec toi, que c'est plutôt l'État islamique est beaucoup plus connu, en fait, est beaucoup plus partisan de ce genre de méthode. De toute façon, les méthodes sont expéditives.
Ils sont destinés à frapper les esprits et à faire peur, tout simplement.
Absolument. Voilà.
Nicolas Normand, l'une des conditions des djihadistes pour commencer à discuter, c'est le retrait français, tout simplement. Mais les militaires au pouvoir ont expliqué dans les heures qui ont suivi le coup d'État au mois d'août que la France restait un partenaire incontournable, majeur sur le plan militaire. Comment est-ce que tout ça peut s'articuler ?
Bah, écoutez, c'est simple. Les négociations ponctuelles pour libérer des otages contre des prisonniers, c'est du classique. Ça fait, il y en a eu des dizaines, malheureusement. En revanche, une négociation plus globale pour une espèce de paix globale, ça serait quelque chose d'assez nouveau. Il y a eu des précédents, c'était en Algérie, mais après une sorte de victoire militaire de l'armée sur les djihadistes, ou à l'inverse, en Afghanistan, c'est la victoire pratiquement des talibans sur l'armée américaine et sur le gouvernement. Donc, dans ces cas-là, il y a un parti qui l'emporte sur l'autre, et donc c'est un cas de négociation parce que on est en fin de conflit en réalité. Lorsque les forces sont relativement égales, c'est ce qui se produit en ce moment puisque les djihadistes n'arrivent pas à prendre le pouvoir dans les villes ou en tout cas à Bamako, même s'ils ont le vent en poupe, ils n'ont pas néanmoins la possibilité de s'emparer du pouvoir. À ce moment-là, la négociation est beaucoup plus difficile. Il faudrait distinguer avec qui. On l'a dit, l'État islamique, ils ne sont pas du tout désireux de négocier parce qu'ils ont une idéologie qui n'est pas propre au compromis, n'est-ce pas ? Ils veulent une sorte de changement de civilisation, ils veulent faire table rase de tout ce qui existe, ils veulent imposer un nouveau système complètement différent par la force. Donc ils ne sont pas prêts à faire un compromis. Pour négocier, il faut un compromis. Alors, la question se pose davantage, effectivement, avec Al-Qaïda et plus exactement avec Iyad Ag-Ghali. Il faut se rappeler que Iyad Ag-Ghali n'a pas toujours été un terroriste. Ça a été un homme politique, voilà, ça a été un diplomate. Voilà. Moi-même, je l'ai connu dans le temps. Il était fréquentable à une époque. Voilà. Alors, il a viré vers le terrorisme. Incontestablement, aujourd'hui, il a beaucoup de sang sur les mains. Mais on sait aussi ce qu'il veut, en fait, parce qu'on a pu parler avec lui avant qu'il soit terroriste. Eh bien, il voudrait une sorte de zone sous son contrôle où il applique la charia. Et donc, c'est peut-être négociable, ça. Je sais que le président ATT était au téléphone avec lui avant d'être lui-même renversé en 2012. Ouais, c'était un coup d'État. Et le président ATT m'avait dit à l'époque qu'il était au téléphone avec Iyad et que Iyad réclamait cela. Et que c'était peut-être discutable. Qu'est-ce que la charia exactement? Quelle forme de charia on applique? Quel territoire? Il faut évidemment que ce soit compatible avec la Constitution. Il faudrait peut-être faire la Constitution pour ça. Bon, et voilà. Mais ça veut dire quand même que Iyad serait en position de force et qu'il serait acté qu'on ne peut pas le battre si on lui fait de telles concession, n'est-ce pas ? Mais c'est pas la même concession qu'un émirat sur tout le Mali. Donc c'est peut-être négociable pour Bamako. Mais là, je suis vraiment dans la politique fiction, dans des hypothèses. En tout cas, en revanche, pour répondre plus précisément à votre question, il veut le départ non seulement de Barkhane mais de la MINUSMA, non pas pour faire la paix, mais pour simplement discuter. Et donc, il est évident que si Barkhane et la MINUSMA se retirent, surtout Barkhane, ben là, il aura peut-être les moyens de ne pas discuter, justement, c'est-à-dire de s'emparer des villes.
Oui. Ouais. Wassim Nasr. Je reviens sur une comparaison qui a été faite par Nicolas Normand. C'est que les États-Unis l'ont fait avec les talibans après l'émergence de l'État islamique en Afghanistan. Ils sont devenus les talibans, les modérés avec lesquels un accord a été conclu. C'était à la fin du mois de février. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les esprits? Est-ce que c'est quelque chose de comparable? Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose de comparable en Afrique?
En tout cas, c'est ce qui est dans l'esprit d'Al-Qaïda. Hein. Parce qu'on a vu des changements dernièrement à cause de ce processus taliban, où les Américains négociaient avec les talibans, mais c'est où les talibans avaient la main, en gros. Ils ont réussi à exclure le gouvernement afghan pour négocier directement avec les Américains. Donc là, et qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé? C'est aussi on a eu l'émergence de l'État islamique en Afghanistan. C'est ça l'articulation aujourd'hui. Donc Al-Qaïda, aujourd'hui, elle se dit... Voilà le modèle taliban, voilà le modèle réussi. On a vu des choses, pour ceux qui suivent dans le détail, le dernier audio de Drugdell, par exemple, il y avait le drapeau malien derrière lui quand même. Il a dit aux Maliens qui manifestaient dans les rues, on est avec vous. Quand j'avais interviewé un Nabi, donc le chef de la Choura d'Akmi, il a dit, on est avec les Algériens qui descendent dans la rue. En même temps, Baghdadi, avant sa mort, disait, les Algériens, les Soudanais et tous ceux qui descendent dans la rue sont des idiots qui vont remplacer un dictateur par un autre. Donc c'est une dynamique totalement différente. Donc, pour Al-Qaïda, qui quand même a une allégeance aux talibans, ça il faut pas l'oublier. Mm-hmm. Quand Jnim a été créé par Iyad Ghali avec Koufa et Aboul Humam l'Algérien, c'était allégeance à Akmi, puis à Al-Qaïda centrale, puis aux talibans. Mm-hmm. C'était dit. Et donc leur exemple, c'est celui des talibans. Mm-hmm. On continue le combat, ce qui est le cas. On continue le combat, mais on négocie, parce que ce n'est pas interdit de négocier.
Mm-hmm. Les Ménouts Salem, vous disiez tout à l'heure que le djihadisme s'étend, en fait, en Afrique. Il n'est pas contenu actuellement. Il y a de plus en plus de djihadistes qui rejoignent les rangs des différentes factions.
Il s'étend essentiellement... Il ne s'étend pas partout en Afrique, heureusement. Bon, mais il s'étend quand même dans certaines zones, notamment au Mali, par exemple, le nord du Mali. J'estime aujourd'hui, moi, à vue d'œil, il faut aller à Tombouctou, à Gao, à Kidal, vous allez vous rendre compte que les partisans de Iyad Ghali sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'en 2012, 2013 ou 2014. Et même à Bamako, quand vous discutez avec les Maliens moyens dans une ruelle de Bamako, vous rendez compte que le discours d'Iyad, la revendication de la demande religieuse au Mali est très forte aujourd'hui. Je viens de passer à moi au Mali. J'étais à Nioro chez les chérifs de Nioro. J'ai vu Mahmoud Diko. J'ai vu l'essentiel de personnalités religieuses maliennes. Et j'ai constaté qu'effectivement, et tout le monde est persuadé au Mali qu'il faut discuter avec Iyad. C'est une position assez très forte chez les élites bamakoises, y compris chez certains démocrates laïcs, etc., etc. Parce que tout simplement, même ceux qui étaient au départ hostiles à la discussion avec Iyad ou avec Koufa, aujourd'hui, se posent la question, est-ce qu'il ne faut pas discuter avec ces gens-là, puisque 7 ans après l'intervention française, on n'arrive toujours pas à éliminer ces gens. Alors, est-ce qu'on ne peut pas les exterminer, les djihadistes du Mali? D'autant plus que chacun de ces groupes s'appuie plus ou moins sur une communauté ethnique ou tribale. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée de discuter avec, en tout cas au Mali, l'idée de discuter avec les djihadistes gagne du terrain dans les esprits.
Ibn Diko
est pour une trêve. Ibn Diko l'a reconnu à un moment donné, alors qu'il était contre l'idée quelques mois avant. Et aujourd'hui, d'autant plus que les pays voisins l'ont fait. Les Mauritaniens ont réussi à plus ou moins à mieux gérer la question des terroristes d'Al-Qaïda. Pas parce qu'ils ont réformé leur armée, c'est parce qu'aussi ils ont utilisé d'autres procédés qui sont le dialogue, notamment en utilisant un bataillon de ulémas, des religieux, qui ont réussi à convaincre l'essentiel des partisans d'Al-Qaïda d'abandonner l'idée du djihad. Un seul d'entre les repentis et s'est retrouvé dans le nord du Mali, et d'ailleurs il fait partie de la liste délibérée de cette semaine.
Nicolas Normand, ce qu'on entend depuis le début de cette émission, et ce qu'on constate apparemment sur le terrain, c'est que bah, y a un équilibre des forces. Est-ce que ce qui semble difficile pour le G5 Sahel et la France de venir à bout de ces rebelles, est-ce que la négociation, et il nous reste pas beaucoup de temps en fait, mais je suis désolé, mais est-ce que la négociation est inéluctable?
Elle n'est pas inéluctable, d'abord, parce que je crois qu'il faut tenir bon. C'est quand même une régression de faire des concessions à des gens qui veulent vraiment revenir en arrière. Deuxièmement, négocier avec Iyad, Ghali et Akmi ne résout pas le problème de l'État islamique. Donc on n'aura pas du tout fait la paix avec les djihadistes. Les djihadistes vont au contraire recruter tous les radicaux et tous les mécontents, tous ceux qui alimentent, qui sont aux racines du djihadisme, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas trouvé leur place dans la société, qui expriment un certain désespoir ou qui n'ont aucune perspective, alors que les djihadistes peuvent leur donner un emploi, de l'argent, etc. Donc on ne va pas supprimer le djihadiste par la négociation, même si on s'entend avec Iyad Ghali. Il restera toujours de nombreux djihadistes, en particulier ceux de l'État islamique. Mmh. Et donc, d'ailleurs, c'est un problème qui se pose en Afghanistan aussi. Maintenant, l'État islamique aussi occupe le terrain derrière les talibans. Donc on ne résout pas aussi facilement un problème aussi difficile que les djihadistes.
Il ne s'agit pas que de négocier et de signer un accord de paix. Il s'agit aussi de voir les causes essentielles qui ont poussé ces dizaines de jeunes et ces centaines de jeunes à rejoindre ce genre de groupe. Donc, alors, les politiques sociales,
d'accord.
La réforme de l'État, l'absence d'État de droit, etc., la démocratie.
Il faut traiter les racines du mal. Absolument.
Merci beaucoup à tous les trois, les Ménouts Salem, Nicolas Normand et Wassim Nasr. Ça fait longtemps qu'on essayait. On on a enfin réussi à le faire. Merci d'être venu avec nous. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Bonjour chez vous.